Bonjour à chacune, à chacun. Voilà, c'est vrai que nous sommes heureux encore de nous retrouver pour louer le Seigneur dans sa présence, l'Église réunie, l'ensemble des rachetés. Et nous avons justement des frères et sœurs qui sont de passage. J'ai reconnu des visages, nos amis de Gap, Hélène et Robert Maté. Soyez les bienvenus avec Aurélie, leur petite fille. Je t'ai reconnu, qui a fait des camps d'adolescentes, des camps de jeunesse à Gap. On a vécu des moments bénis, soyez les bienvenus. Il y a aussi de passage notre frère, le pasteur Monsieur Galifot, ainsi que son neveu. J'ai reconnu le papa de Michael, Monsieur Bach, qui est là. Il y a certainement le pasteur Monsieur Bach, voilà. Il y a certainement d'autres personnes que je ne connais pas, mais soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse richement, abondamment au milieu de nous. Puisque nous sommes ensemble, l'Église de Jésus-Christ. Nous aurons quelques annonces à la fin de ce culte, mais dès maintenant, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1er, au verset 67. Le thème de ce message que j'ai eu à cœur de partager avec vous ce matin pourrait être « Visitation et habitation de Dieu ». Alors, le plan, c'est simple. Enfin, j'espère que ça sera aussi simple que je le dis. Premièrement, la visitation de Dieu, et deuxièmement, son habitation au milieu de son peuple et en nous. Luc chapitre 1er, verset 67. Zacharie, donc son père, fut père bien sûr de Jean-Baptiste, qui avait été annoncé et qui était celui qui allait être le précurseur de Jésus. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, donc c'est Jean-Baptiste, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. » Jean-Baptiste avait donc été annoncé comme celui qui allait préparer le chemin du Seigneur. Et là, il y a une prophétie qui est annoncée. Dieu a visité son peuple. Et la grande visite, la plus grande des visitations de Dieu, c'est celle de Jésus-Christ, qui est venu parmi nous, qui est descendu du ciel de gloire pour venir sur notre terre, pour nous donner la vie. Il a payé le prix, il est mort au calvaire pour nos péchés, il est ressuscité. Et ça, c'est la plus grande des victoires. Dieu est un Dieu qui veut nous visiter. Dernièrement, une mamie me disait, alors que nous discutions, et elle était dans des moments de souffrance physique, c'est dur, et beaucoup de solitude. Et nous avons parlé, et elle me dit, « Mais est-ce que tu sais ce qui m'a fait le plus de bien ?» Je l'écoutais, et elle me dit, « C'est la visite d'un jeune garçon. » Il y a un garçon de l'église qui est allé la visiter, simplement pour lui dire bonjour, simplement pour manifester de l'affection, parler avec elle, ils ont partagé la parole, une visite qui lui a fait du bien. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres visites qui font moins de bien, mais il y a des visites qui font du bien. Se visiter les uns les autres, ça fait du bien, c'est du réconfort, visiter les veuves et les orphelins. D'ailleurs, au passage, j'encourage les jeunes, j'encourage peut-être quelqu'un qui a reçu dans son cœur un appel, qui a à cœur même d'aider, peut-être une personne âgée, peut-être un couple en difficulté, qui a beaucoup d'enfants et qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, et qui ne l'a pas encore fait. Oui, je t'encourage à le faire. D'ailleurs, c'est ce que Jacques nous dit dans son premier chapitre. Jacques nous dit quoi ? La religion sans pur et sans tache devant Dieu, hein, parce que devant les hommes, visiblement, il y a une différence entre la religion aux yeux de Dieu et la religion aux yeux des hommes. Et Jacques dit, mais aux yeux de Dieu, devant Dieu, la religion sans pur et sans tache consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc je vous encourage à le faire, se visiter l'un l'autre, ça fait du bien. Et ces rapports entre nous brisent la puissance dominatrice terrible de l'anonymat, de la solitude. Dans Matthieu, au chapitre 25, Jésus va d'ailleurs nous dire, lors de l'avènement du Fils de Dieu, il va séparer les boucs des brebis, donc il va y avoir quand même une différence entre deux peuples, les brebis à droite, les boucs à gauche, et il dira à droite, les brebis, c'est une image, hein, ça nous parle bien sûr des hommes et des femmes qui lui appartiennent. Il va leur dire, venez maintenant, prenez possession du royaume qui vous a été promis, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Mais Seigneur, quand avons-nous fait tout cela pour toi ? Bien, quand vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, dit le Seigneur. Et la perception du Seigneur, l'importance de la visite. Mais ce que j'aimerais dire et sur quoi accentuer ce matin, il est bon de se visiter les uns les autres, mais l'important, c'est la visitation de Dieu auprès de son peuple. Et Dieu peut visiter quelqu'un et se servir aussi d'un bien-aimé, d'un frère et sœur, d'une personne. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous l'avons entendu tout à l'heure. Si tu es dans la difficulté aussi, laisse-toi aider. Et il y a des gens qui ne veulent pas aider, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. On ne peut pas parler à quelqu'un qui ne veut pas écouter, laisse-toi aider. Mais ce matin, le Seigneur met l'accent aussi sur le fait qu'il veut nous visiter. Voyez comme on peut se faire du bien quand on se visite. Dieu ne nous fait-il pas du bien quand il nous visite ? Qui a déjà vécu un moment où Dieu l'a visité ? Oh, j'espère que tous les croyants lèveront leurs mains. Parce qu'à partir du moment où nous avons donné notre cœur au Seigneur, c'est que d'une manière ou d'une autre, Dieu nous a visités, n'est-ce pas ? Et Dieu veut encore nous visiter. C'est une marque de l'action de Dieu, du caractère de Dieu, pour nous faire du bien, pour nous sauver, pour nous relever, pour nous guérir, pour manifester les charismes au milieu de l'Église, au milieu de son peuple. Il y a un besoin, eh bien Dieu veut te visiter. Oui, dans Exode 4, tout ceci nous est dit dans la parole de Dieu. Hein. Quand on voit dans l'Exode 4, on ne va pas prendre tous les versets, mais je vais citer certains passages qui, je pense, va rappeler à vos mémoires le souvenir des visitations de Dieu. Vous rappelez, Exode, au chapitre 4, Dieu a appelé Moïse. Pourquoi ? Parce que le peuple était dans la souffrance. Ils criaient à Dieu, ils étaient esclaves. Alors Dieu a appelé Moïse, il suscite un homme comme libérateur. Et il va dire à Moïse, il va lui faire comprendre qu'il a entendu les cris du peuple, il a vu sa souffrance, alors il est descendu. Exode 4, Dieu a visité son peuple. Et la conséquence, c'est qu'il le délivre et il amène sur des chemins nouveaux dans un pays de bénédiction nouveau, avec des projets nouveaux, où coule le lait et le miel. C'est une expression de la parole qui parle d'une grande bénédiction, même au niveau matériel, pour ce peuple, qui va sortir d'une angoisse, d'une servitude et d'un joug. Dieu a visité son peuple pour le bénir. Et il nous a dit, le peuple crut, s'inclina, se prosterna, car Dieu a visité son peuple. Quand Dieu visite son peuple, il est libéré de ses liens. Quand Dieu visite son peuple, je pense à Ruth. Ruth, c'était une Moabite. Et nous voyons dans justement le livre de Ruth que Élimélec avait pris sa femme et ses deux enfants, donc sa femme Naomi, ses deux enfants Maclon et Kiljon, et ils sont partis dans un pays étranger, à Moab. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la famine. Il y avait un problème, il y avait la famine, il n'y avait plus de pain. Et là, dans ce pays étranger, qu'est-ce qui va se passer? Les deux fils meurent, le père meurt, et Noémie reste là seule avec ses deux belles filles, étrangères, au départ à son peuple. Elle est dans une grande souffrance, imaginons un peu, une mère qui perd ses deux fils et son mari. 10 ans en pays étranger. Puis, il nous est dit qu'elle va retourner dans son pays, elle va retourner dans le pays de son peuple, du peuple de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle a entendu que Dieu a visité son peuple et qu'il lui a donné du pain en abondance. Là où il y avait la famine, Dieu a donné du pain. Là où il y avait eu la mort, voyez la mort de Élimélec, de ses deux fils, Dieu va visiter Naomi, Dieu va visiter Ruth, Dieu va visiter cette famille, Dieu va visiter ce pays. Une visitation qui ramène à la vie. Il y avait eu beaucoup d'incompréhension, il y avait le danger de rester en pays étranger, mais Dieu, là aussi, a vu le cœur de Naomi et il est allé l'arracher à ce pays étranger. Quand Dieu visite son peuple, quand Dieu visite une personne, il est capable de ramener la brebis égarée. C'est quand même une des plus belles images de l'évangile. Le bon berger qui est capable de laisser ses 99 brebis, non pas les laisser, je dirais, à la merci du loup, mais il les laisse en sécurité pour aller chercher celle qui est perdue. Et quand il la trouve, il la porte sur son épaule, il ne lui dit pas « Allez, viens, dépêche-toi ». Je t'avais dit de ne pas aller là-bas. Il la porte sur ses épaules. L'affection, la tendresse, l'amour de Christ. Et je me rappelle de ce témoignage. C'est un jeune garçon qui a raconté, alors qu'il s'était converti, donc il était devenu disciple du Seigneur. Il avait été touché dans son cœur. Il avait confessé ses péchés, demandé pardon. Il avait été délivré de la drogue, de l'alcool, de la cigarette. Il avait vécu beaucoup d'expériences miraculeuses. Mais à un moment donné, il s'est éloigné de Dieu et il n'osait plus revenir. Il avait honte, en fait. Il n'osait plus revenir dans la maison de Dieu, mais même il avait honte d'ouvrir sa Bible. Il n'osait plus, il se sentait coupable et indigne. Et puis, alors qu'il était là sur la table de son chevet, il était en train de lire un livre, il reçoit un coup de téléphone, il décroche. Et puis là, il y avait ses parents, hein, ses parents qui n'osaient plus lui en parler parce qu'il avait été tellement virulent. Et sa mère lui dit, avant de raccrocher, « Pense au Seigneur, parce que le Seigneur pense à toi. » Juste une parole, mais qui était vraiment conduite du Seigneur. Il en avait entendu des milliers, rien n'avait semblé toucher son cœur. Mais celle-là, à ce moment-là, elle était dirigée par le Saint-Esprit. Il raccroche le téléphone et tout à coup, il se met à fondre en larmes. Et il est resté plusieurs heures, c'est lui qui témoigne, à genoux devant Dieu, en train de confesser ses péchés. Il était visité par le Seigneur. Il est revenu à Dieu. Quelqu'un qui s'était éloigné, Dieu est venu et l'a ramené. Quand Dieu visite, il ramène le perdu. Il ramène la brebis égarée. C'est peut-être pour quelqu'un ce matin. Parce qu'on peut être assis sur une chaise dans une église, mais être bien loin du Seigneur. Quand Dieu visite son peuple, il est capable de toucher un cœur, de ramener une brebis. Quand Dieu visite une personne, il lui montre son amour et il dépose sa main bienveillante et son regard sur lui. Que dire d'un Samuel dans le chef ? Dans un Samuel, vous vous rappelez de quoi il s'agit ? Cette fameuse âne qui ne pouvait avoir d'enfant. Elle était mortifiée, elle était insultée par sa rivale, Pénina. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a répandu son cœur devant l'Éternel et Dieu lui a accordé ce qu'elle avait demandé, un fils. Elle lui avait dit, je te le donnerai, il sera pour toi Samuel. Dieu a exaucé ma prière. Mais il n'en reste pas moins qu'au départ, elle avait une stérilité. Il y avait un problème qui était là, qui était physiologique. Il y avait un obstacle pour avoir un enfant. Et il nous est dit dans 1 Samuel au chapitre 2, un peu plus loin, que quand Dieu va visiter Anne, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Samuel va rester, entre guillemets, fils unique ? Non, pourquoi ? Dieu va visiter Anne et elle va avoir 3 fils et 2 filles. Dieu est celui qui est capable de briser toutes les barrières. Je discutais avec un frère de l'église qui me disait que lors d'un moment de recueillement, en prenant le repas du Seigneur, le pain et le vin, il était malade depuis des années et des années. il se faisait des bronchites asthmatiformes. Et il en souffrait, et c'était de plus en plus dur pour lui. Il a fait un acte de foi. Il a saisi une victoire. « Seigneur, tu peux me guérir maintenant. » Personne n'a su, personne n'a rien vu. Mais alors qu'il prend le pain et le vin, il rentre chez lui, il était instantanément guéri. Il était délivré. Quand Dieu visite une personne, il la guérit. Quand Dieu visite une personne, il est même capable de donner à une femme qui est stérile d'enfanter et de la délivrer. Il est capable de toutes les guérisons. Il est le Dieu puissant, c'est pourquoi Dieu veut nous visiter. Es-tu malade ? Dieu peut te visiter et te guérir. Il est celui qui guérit. Es-tu stérile ? Peut-être spirituellement parlant. Tu ne donnes plus naissance à des âmes. Peut-être quelqu'un est là et il s'est refroidi dans son amour pour Dieu, dans son zèle pour l'Évangile. Quand Dieu te visite, quand Dieu nous visite par le Saint-Esprit, il rallume une flamme nouvelle. Il n'éteint pas le lumignon qui fume et il ne méprise pas les faibles commencements. Vois la main de grâce sur ta vie ce matin. La grande visite, nous l'avons lue, c'est celle de Jésus qui est venu sur la terre. Et nous voyons que un peu plus loin dans l'évangile de Luc, à un moment donné, le peuple va louer Dieu. Un peuple va louer Dieu et dire « Gloire à Dieu !» Oui, un grand prophète. Alors, ils avaient besoin d'une plus grande révélation de qui est Jésus, mais un grand prophète nous a visités. Pourquoi ? Parce que Jésus était là, à l'entrée de la ville de Naïn. Et là, il y a une femme qui est veuve et qui a un fils unique. Et elle, non seulement elle est veuve, mais elle perd son fils unique. Il est mort. Et là, il y a un cortège funèbre qui arrive. Mais il y a le cortège de la vie, le cortège de Jésus, emmené par ses disciples, plein d'espérance, qui rencontre ce cortège-là. Et à la fin, les deux vont ne faire plus qu'un pour louer Dieu et dire « Dieu nous a visités ». Parce que cet enfant qui était mort, Jésus va le ramener à la vie et le ressusciter. Quand Dieu visite, il ramène à la vie quelqu'un qui peut-être est comme mort intérieurement, qui s'est éteint, qui a perdu sa joie de vivre, qui a perdu sa paix. Jésus le fait car il est tout-puissant. Et s'il a ramené cet enfant, ce jeune garçon d'entre les morts, il nous dit qu'il a vaincu la mort. Il a brisé le pouvoir de la mort parce que lui-même est ressuscité pour l'éternité. Et tous ceux qui marchent en nouveauté de vie sont des ressuscités. Nous sommes des ressuscités, vous le savez ? Nous sommes des ressuscités. Nous étions morts par nos offenses, mais Christ nous a ramenés à la vie. Et ce qu'il a fait pour ce jeune garçon, il le fait pour quelqu'un ce matin. Parce que Dieu veut te visiter, mais veux-tu être visité par le Seigneur ? Témoignage que je lis. Conversion miraculeuse d'un homme. Je suis né en 1932 dans une famille athée. Je n'avais jamais entendu parler de Dieu. Pendant la guerre 39-40, mon père a été déporté à Auschwitz. N'ayant plus de père ni de mère, j'ai été abandonné puis recueilli dans une ferme pyrénéenne. Mon père a été libéré en 45. Il a tenté de refaire sa vie, mais je n'ai pas accepté ma nouvelle belle-mère et je me suis enfui à Marseille à l'âge de 13 ans, couchant dans les rues et déchargeant des camions. À cette époque, la police m'arrêta et me mit en prison au Baumettes, en attendant de me rendre à ma famille. Au contact des autres prisonniers, je suis devenu un petit délinquant, apprenant toutes les ficelles du métier, et à 15 ans, j'ai été arrêté pour une attaque à main armée et mis en prison jusqu'à ma majorité. À 18 ans, on avait la possibilité de s'engager pour faire la guerre d'Indochine, ce que j'ai fait pour éviter la prison. J'ai été blessé et rapatrié en France et soigné jusqu'à ma majorité, et je me suis lancé dans les affaires. Fort de mes expériences militaires et carcérales, je suis devenu le chef d'une bande de gangsters spécialisée dans le braquage des banques. Je vous passe certains détails. J'ai rencontré un chrétien. Je me suis moqué de lui. Je lui ai demandé s'il était un homme ou une femme. Il m'a répondu « Je suis disciple de Jésus, je sers Dieu ». Je me suis moqué de lui, mais peu à peu il est devenu mon ami parce qu'il m'aimait. Il me donnait des conseils que je ne suivais pas. Et chaque fois qu'il me parlait de Dieu, je lui disais « Laisse ton Dieu où il est ». 3 fois, je me suis évadé encore. 3 fois, j'ai été repris. Toutes mes affaires vont me valoir 120 ans de prison s'il fallait tout cumuler. Et je suis arrivé dans une prison terrible où le directeur m'a reçu avec ces paroles. « Ici, tu marches ?» Je ne vous dis pas la suite, vous avez compris. J'ai répondu en lui balançant le bureau sur la tête. J'étais plein de haine. Ils m'ont mis dans une toute petite cellule, dans un lit scellé. Et mon ami ne m'a jamais abandonné. Il m'envoyait des lettres où il me parlait de Dieu. Et il a fini par m'envoyer une Bible où il me suppliait de la lire. Et je me suis dit, quoi, c'est pas vrai. Il m'a ramené son bon Dieu dans ma cellule. Je jetais le livre. Alors pour lui faire plaisir, en 10 ans, je l'ai ouvert 9 fois. J'étais révolté en lisant la Bible. Comme quoi, il y a des gens qui ne peuvent ne pas comprendre. Je ne comprenais pas pourquoi, aux noces de Cana, Jésus avait changé l'eau en vin. Moi, j'ouvrais le robinet de mon lavabo en disant « Fais couler le vin, ça ne marchait pas ». J'ai écrit à mon ami chrétien en disant « Ton livre ne marche pas ». Et il m'a répondu « André, tu lis de travers, persévère ». J'ai lu l'histoire de la Samaritaine, l'histoire de la résurrection de Lazare. Et avec cette histoire, j'étais révolté, je ne pouvais pas la croire. Et mon ami qui est mort, tué par les policiers, lui, il n'est pas ressuscité comme Lazare. J'étais révolté. Puis j'ai repris la lecture longtemps après et j'ai lu que Jésus avait été crucifié, maltraité. On lui a craché dessus, on l'a fouetté. Et je ne comprenais pas pourquoi on faisait autant de mal à quelqu'un qui faisait autant de bien. J'ai écrit à mon ami chrétien, il m'a répondu « c'est de ta faute ». Je lui ai répondu « je ne comprends plus rien ». Il ne me restait plus aucun espoir. Alors, en désespoir de cause, j'ai fait appel à Jésus. Je lui ai dit « si tu existes, je te donne rendez-vous, viens cette nuit à 2h du matin dans ma cellule et tu m'aideras à m'évader ». Je me suis endormi cette nuit-là et d'un coup, au milieu de la nuit, j'ai été réveillé, prêt à bondir. J'ai senti une présence dans ma cellule, mais je ne voyais personne. Puis j'ai entendu une voix claire et forte à l'intérieur de moi. « André, il est 2h du matin, on a rendez-vous ». J'appelais le gardien en criant « c'est toi qui m'appelles ?» Il me dit « non, mais laisse-moi dormir ».« Quelle heure est-il ? » lui demandai-je. « 2h. »« 2h combien ?»« 2h pile », me répondit le gardien. Puis la voix se fit entendre à nouveau. « Ne sois pas incrédule, André, je suis ton Dieu et je veux être le Dieu de tous les hommes. »« Mais je ne te vois pas », répondis-je. À ce moment-là, vers les barreaux de la lucarne, une lumière apparut. Et dans cette nuit, un homme avec les mains et les pieds percés et un trou au côté droit me dit « c'est aussi pour toi ». À ce moment-là, les écailles de mes yeux, lourdes de 37 ans de péché, sont tombées et j'ai vu toute ma misère et toute ma méchanceté. J'ai pleuré, je suis tombé à genoux, je suis resté dans cette position jusqu'à 7 heures du matin. J'ai pleuré devant Dieu et tout le mal est sorti de moi. J'ai compris que pendant 37 ans, j'avais enfoncé les clous dans ses mains et dans ses pieds. À 7 heures, les gardiens m'ont ouvert. Ils m'ont vu à genoux pleurant. Et je leur ai dit, je ne vous cracherai plus dessus, je ne vous frapperai plus, je ne volerai plus personne. Car chaque fois que je le ferai, c'est à Jésus que je le ferai. Les gardiens ont été surpris. Au début, ils ne m'ont pas cru un seul instant. Ils ont cru que c'était une ruse pour que je m'évade. Puis rapidement, ils ont compris que j'avais totalement changé. Plusieurs détenus ont été interpellés et ont pu eux aussi rencontrer ce Dieu merveilleux et changer de vie. Je suis maintenant libéré, ma vie a totalement changé et je passe tout mon temps à parler aux autres de l'amour de ce Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen ? Je pensais avoir provoqué Jésus pour qu'il m'aide à sortir de la prison de Château-Thierry. Et il m'a libéré de la plus grande des prisons, celle du péché dans laquelle j'étais enfermé, de la violence, de la haine et du mal, la prison de mon âme, il m'a rendu libre. Ce que Dieu fait est merveilleux. Dieu l'a visité. Et quand Dieu nous visite, il ne nous demande pas de calquer un exemple, un réveil, une visitation, en disant « moi je veux vivre exactement la même chose au mot près, à la seconde près ». Dieu fait comme il veut. Il nous surprend, mais il est puissant. Quand Dieu visite, il touche un cœur, il sauve, il libère, il délivre, parce qu'il nous parle de sa mort, mais il nous parle de sa résurrection. Nous sommes des ressuscités. Alors ce qui est extraordinaire dans la suite de ce témoignage, c'est que le jeudi 3 mars 2011, il y a 4 mois, un jeune chrétien qui connaissait ce témoignage, qui l'avait lu et qui en était emprunt, Gruitier, monte en haut de sa grue. Il dit, entre 12, 13 heures et 14 heures, j'ai l'habitude toujours de me reposer. c'est la pause. Cette fois-ci, j'ai eu à cœur de descendre et de parler à mes collègues travailleurs. Je l'ai fait, je suis descendu. Il y avait un stagiaire de 20 ans à côté de moi. Je lui parle. Il écoutait la musique, comme tous les jeunes, à toute heure. Et il me demande, je lui demande, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Et il me répond, une musique de l'Antéchrist. Je me suis dit, le Seigneur m'a envoyé vers lui. Je lui dis ce que je pense. Je lui dis que c'est une musique qui est contre Christ et qui est satanique, qui n'est pas bonne pour son âme. Et puis, blessé, cet homme dit qu'il était blessé, ce jeune garçon, meurtri de la vie et qu'il ne croyait pas en Dieu, il ne voulait pas entendre parler. Il lui a quand même encore parlé de Jésus avec juste une parole d'encouragement et il l'a laissé libre. Et il lui a raconté le témoignage que je viens de vous raconter. Et ce jeune garçon, en se moquant, lui dit « Puisque tu parles à ton Jésus, dis-lui que je veux le rencontrer ce soir à 20h. » Et alors le chrétien lui dit « Écoute, Jésus entend tout. Si tu veux le rencontrer, demande-lui. » Mais il a entendu ce que tu viens lui dire. Et il remonte dans sa grue et là, la peur. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai raconté? Le doute! Et puis le Seigneur vient l'encourager. Il dit « Non, je ne faiblirai pas dans ma foi. C'est toi qui a fait que toutes ces circonstances se mettent en place, dont tu veux le toucher, tu veux le bénir. » Elle se met à prier. À 7h même, il y avait une réunion. Il vient à l'assemblée, il prie avec ses frères et sœurs et il remercie Dieu d'avance pour ce que Dieu allait faire. Le lundi, il se revoit et il va vers le jeune. Il lui dit « Alors ?» Le jeune lui répond « Jésus était en avance. Je me suis endormi à 19h45, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé de Christ, j'ai rêvé de la croix. Je ne me souviens pas de beaucoup de choses. Mais quand je me suis réveillé, je savais que Dieu m'aimait et qu'il était vivant. » C'est merveilleux. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein, n'est-ce pas? L'homme n'y prend point garde. Nous voulons prendre garde à comment Dieu parle et comment Dieu agit. Quand Dieu visite les hommes, veux-tu que Dieu te visite? Quand Dieu nous visite, il se passe des choses merveilleuses. Mais on peut passer à côté du temps de la visitation de Dieu. Alors ne passons pas à côté. Quand Dieu nous visite, il se passe ce qui s'est passé dans Actes 10, 44. Pierre prêche, il parle de Jésus, il parle de la croix, il parle de la résurrection. Il n'avait rien prévu, lui, mais le Saint-Esprit, lui, oui. Alors qu'ils sont touchés au plus profond de leur cœur du message qui est annoncé de Jésus, le Saint-Esprit vient sur eux, des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu. Ils sont baptisés du Saint-Esprit, la visitation de Dieu. Dieu peut-il encore baptiser du Saint-Esprit? Quand Dieu nous visite, quand Dieu visite, il baptise du Saint-Esprit. Je me rappelle, et Aurélie est là, elle pourra certainement témoigner. Tu devais être là, c'était un camp de préadolescents. On était en train de... On faisait une réunion, on chantait, et j'ai à peine eu le temps de commencer à lire un passage que tout à coup je vois un enfant qui pleure, un autre qui pleure, un autre qui vient me voir, qui dit « Je veux que tu pries pour moi ». Et en quelques instants, on n'a pas fait le programme qu'on avait prévu. Mais il y a une visitation de Dieu qui voulait guérir des cœurs brisés. Guérir, tu t'en souviens? Tu peux témoigner? Non, tu t'en souviens pas? Jésus est tout-puissant. Est-ce que tu veux que Dieu te visite? Est-ce que tu veux que Dieu te guérisse? Des guérisons intérieures, voilà, baptême du Saint-Esprit, mais guérison intérieure. Je pense à ce témoignage d'un homme qui disait qu'il était dans une réunion, il y a eu voilà la présence de Dieu. Rien de particulier, entre guillemets, au sens général, mais lui a vécu une visitation personnelle avec Dieu. Et alors qu'il refusait de pardonner à son épouse, qui était partie avec un autre homme, alors qu'il était voyageur par rapport à son travail, pendant des semaines et des semaines, il était parti, et quand il est revenu, son épouse était partie. Et il était déchiré. Il était meurtri, il avait de la haine. Et il disait au pasteur, c'était un chrétien, et il disait au pasteur, mais j'arrive pas à pardonner. Et il lui a dit, le pasteur, pour l'aider, mais il n'y a que la puissance du pardon de Christ qui pourra t'aider à pardonner. Et là, dans ce moment de réunion, il a été visité. Il a senti l'amour de Dieu. Il a ressenti à nouveau le pardon de Dieu. Et il a pu faire ce qu'il ne pouvait pas faire parce que c'était Christ qui faisait ça en lui. C'était le Saint-Esprit qui venait l'aider. Il est ressorti comme léger. Il a dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plus de haine. Alors bien sûr, après, ça a été certainement compliqué. Je n'ai pas suivi la suite. Parce que bien sûr, il y a d'autres enjeux dans une telle histoire. Mais je sais que cet homme a trouvé la paix Voilà pourquoi il en témoigne. Quand Dieu visite quelqu'un, il y a des guérisons intérieures. Quand Dieu visite quelqu'un, il y a une restauration de l'âme. Dieu nous rafraîchit, nous renouvelle. Vas-tu passer à côté de ce temps de visitation parce que Dieu veut nous visiter? C'est propre dans la parole de Dieu. Que dire des charismes et des guérisons? Parce que Dieu veut nous faire grâce et nous faire ses faveurs. Il veut au milieu de nous et qu'il y ait des miracles et des guérisons. Parole de connaissance. Lors d'un moment de partage dans une réunion de maison. Une personne qui a à cœur une parole, mais pour une autre personne en particulier. Alors, elle attend la fin de la réunion. À la fin de la réunion, elle va la voir. Et elle lui dit, voilà ce que j'ai sur le cœur humblement à te dire. Et elle lui partage quelque chose de très précis. Cet homme fond là, personne n'était au courant de sa situation. Il était sur le point de prendre une décision qui allait bouleverser sa vie. Il sait à ce moment-là que Dieu lui parle. Parole de connaissance. Quand Dieu nous visite, les charismes et les dons spirituels, il les manifeste au travers des hommes comme il veut, quand il veut. Et quelqu'un est là et va dire, oui, mais moi je ne l'ai pas vécu. Mais j'essaie de comprendre comment ça va se manifester. N'essaie pas de comprendre comme ce petit garçon. Vous savez, il y a un petit garçon, il était un jour au bord de l'océan. Il avait son seau avec sa petite pelle et son râteau, comme les enfants sur la plage. Il prend une petite cuillère que sa maman avait dans le sac où ils avaient étalé la couverture. Et puis, il va prendre l'eau dans l'océan et peu à peu, il remplissait son seau. Et sa maman lui pose la question, « Mais que fais-tu ?»« Ben, je vide l'océan, maman. »« Mais tu crois que tu vas y arriver ?»« Mais oui, maman, je vais y arriver. » »« Mais t'inquiète pas. » Et il faisait ses allers-retours. Il était courageux. Mais outre cela, l'amour de Dieu est plus vaste qu'un océan. Est-ce qu'on le chante? Mais est-ce qu'on le croit? Ce petit garçon, est-ce qu'il pouvait réussir à vider l'océan? Et parfois, on est un petit peu comme ça. On essaie de tout comprendre, tout expliquer, tout formater à notre manière. Et Dieu, il dit, mais arrête. Tu ne peux pas vider l'océan de mon amour avec ta petite cuillère. Arrête, ce que tu as besoin, c'est juste de dire ce que le psalmiste dit au chapitre 106. Dans certaines versions, il est dit, viens à mon aide, Seigneur. Une prière qui vient du cœur. Soutiens-moi, aide-moi. Dans la version Jérusalem, j'aime beaucoup, il dit, visite-moi. Oui, on peut prier en disant, mais Seigneur, visite-moi. Renouvelle-moi, rafraîchis mon cœur. Dieu voit la sincérité de ta prière. Alors, au lieu d'essayer de vider l'océan à la petite cuillère, il va t'inonder de cette eau d'océan d'amour, t'inonder de sa présence. Il connaît nos besoins, il ne se trompera pas. Une visitation de Dieu qui nous transforme, qui nous renouvelle. Je termine avec quelques mots sur l'habitation. Pourquoi? Parce que oui, Dieu veut nous visiter. Et quand Dieu nous visite, c'est par son Esprit Saint. La Bible nous dit que Jésus-Christ a été ressuscité et qu'il est aujourd'hui à la droite de Dieu le Père. Et que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais le Seigneur nous dit non seulement, c'est vrai, il veut nous visiter, mais il nous montre aussi combien on peut perdre les bienfaits d'une visitation. Et d'un moment où Dieu nous a touchés, nous a interpellés, et combien aussi on peut parler au passé d'une visitation. Je l'ai fait tout à l'heure. J'ai parlé au passé d'un moment précis. Et Dieu ne voudrait pas que nous nous enfermions dans les retranchements de visitations ponctuelles, mais il voudrait aussi que nous goûtions aux bienfaits d'une habitation. Dieu est un Dieu d'habitation. Dieu est un Dieu de visitation, mais il est aussi un Dieu d'habitation. Il ne veut pas que nous en restions uniquement à dire « Viens nous visiter ». Mais comme ses disciples d'Emmaüs, reste avec nous, reste en nous. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on s'arrête sur des événements, sur des grands événements. Ce qui se passe, c'est que peut-être notre foi et notre vie chrétienne, elles fluctuent comme un oscillateur. Un coup en haut, un coup en bas, parce qu'on attend simplement des visitations pour avancer dans notre foi. Mais Dieu veut que nous goûtions aussi les bienfaits d'une habitation. Psaume 65, versets 9 et 10, s'il vous plaît. Psaume 65, versets 9 et 10. « Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et d'Occident, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Amen. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Donc il veut nous visiter, mais cet océan ne tarit pas. Donc il veut aussi répandre cette eau en continuant dans nos cœurs. Ésaïe 57, 15. Ésaïe 57, verset 15. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Amen. Paul dit à Timothée que Dieu habite une lumière inaccessible, là où aucun homme ne peut voir ni n'a vu ces lieux très élevés de Dieu. Et pourtant, il veut se rendre accessible à nous. Il est venu en Jésus-Christ, rappelons-nous de cela. Et voyez, autant Dieu est grand, autant Dieu est puissant. On ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas vider son océan avec une petite cuillère, je le répète. Non, il est plus parfait que le mot « Père parfait ». Il est plus parfait que nos idéaux de la perfection. Il est plus grand que nos représentations de ce qu'est la perfection. Il est au-dessus de toutes nos représentations, de toutes nos pensées et de tout ce qu'on peut imaginer. Et pourtant, par amour, il a décidé de venir parmi nous. Alors c'est vrai, Dieu a demandé une habitation par un lieu visible, au début, au travers de quoi ? À travers d'un lieu, hein, clair, une arche, une tente, un sanctuaire, un temple. Mais ça ne veut pas dire que Dieu était renfermé dans cela. Hein. Mais mieux encore, il dit « J'habite au milieu de mon peuple ». Et le livre des Actes des Apôtres nous dit qu'il n'habite pas des murs faits de main d'homme. Et plus encore, Paul dira « Il nous édifie afin que nous soyons une habitation de Dieu en esprit ». 1 Corinthiens 3, 16, dernier verset. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Vous, mes enfants, dit le Seigneur. Et Paul dira, afin que Christ habite vos cœurs par la foi. Quand on reçoit le Seigneur, il habite en nous. Mais il voudrait prendre toute la place. Il veut que nous vivions une visitation, mais il veut surtout aussi que nous lui accordions notre corps comme sa présence, afin que nous vivions l'habitation de Dieu. Et ça, c'est merveilleux, l'habitation. Et en contrepartie, l'Apocalypse nous montre comme en Babylone, un symbole du lieu de débauche, d'impureté, de péché, sera l'habitation des démons. Deux fois le mot est employé seulement dans le Nouveau Testament, ce mot précis en grec, quand il est parlé de ceux qui ont été rebelles, habitation. Et cette ville, une habitation de démons. Et quand Paul dit « Vous, vous êtes une habitation de Dieu en esprit », c'est-à-dire qu'il habite en nous. Ce n'est pas physique, c'est intérieur. Et je voudrais vraiment que nous prenions conscience de l'importance de la visitation, mais de l'importance aussi de l'habitation. Si demain, je viens chez toi, Jérémy, je t'ai choisi au hasard, je te visite, est-ce que j'habite chez toi ? Quand je visite, c'est que je n'habite pas. Quand j'habite, c'est que je ne visite pas. Quand Dieu nous visite, c'est bon pour nous relever. C'est bon pour nous faire du bien. C'est bon pour nous réconforter, pour nous guérir, pour nous remplir du Saint-Esprit. Mais peut-être que nous avons besoin aussi d'une vie de constance avec Dieu, afin que nous passions peut-être de certains moments seulement de visitation à une réelle habitation de Dieu. Et ça, c'est une question de proximité avec Dieu, à chaque instant, à chaque moment. Je me rappelle, et je conclue par cette anecdote réelle, hein, c'est une association pour le Burkina qui s'est créée, et dont mon papa fait partie. Et au départ, quand ils allaient dans un village de brousse qui était... bien sûr, sans beaucoup de matériel, il n'y avait pas d'électricité, ils se douchent à l'eau, avec le seau, etc. Ils sont venus avec, bien sûr, des Européens, des Français. Et ces Burkinabés les ont accueillis. Et puis, ils sont venus plusieurs fois, chaque année, ils venaient, parce que c'est un projet à long terme. des forages, des puits, un orphelinat, etc., beaucoup d'aide. Et au bout de quelques temps, je crois au bout de la troisième année, quand ils sont retournés, ces membres de l'association, ils ont vu de nouvelles cases qui avaient été créées, construites. Et ils ont posé la question, ah, vous avez de nouveaux habitants, mais nous, non, ce sont les vôtres. Ce sont les nôtres ? Oui, parce qu'autrefois vous étiez étrangers. Puis vous êtes devenus des amis, mais maintenant vous faites partie de la famille. Alors nous vous avons construit une habitation, afin que vous puissiez y séjourner et être avec nous, parce que nous vous aimons. Quand il y a une relation de famille, il y a la notion d'habitation. Il n'était plus étranger. Je veux dire que quand Dieu, nous le considérons et nous avons une relation avec lui qui est celle qui est cohérente avec la notion de père à fils, Dieu vient et il habite nos cœurs. Par la foi, Seigneur, tu habites en nous. Dieu veut que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Alors nous sommes plein de vie, et nous marchons triomphants, victorieux, parce qu'il est ressuscité. Amen. On va s'incliner, s'il vous plaît. Je vais demander à Evans de venir. Et pour répondre à ce message, je ne vais pas faire un appel à lever la main ou autre, mais nous allons prendre ce cantique ensemble, que ces lieux soient visités, et que dans nos cœurs, il y ait le désir que ces paroles soient concrètes. J'ai besoin que tu me visites et j'ai besoin que tu fasses ta demeure en moi. J'ai besoin d'être guéri. Quel est ton besoin? Attends-toi une visitation de Dieu, un attouchement de Dieu. Quel est ton besoin? Peut-être tu fluctues. Attends-toi à ce que le Saint-Esprit habite ton corps, parce que ton corps doit être le temple du Saint-Esprit. Et que ce matin, ces lieux soient visités par sa sainte présence. Que ces lieux soient balayés, soient visités par le Saint-Esprit, invisible mais qui est bien présent, qui habite une lumière inaccessible et pourtant qui décide d'habiter nos corps et nos cœurs par la foi. Gloire à toi. Et pendant ce cantique, je vous encourage à prendre une victoire dans un dialogue personnel avec Dieu, à vivre une délivrance, une guérison, comme nous l'avons vu dans tous ces témoignages, à ce qu'une brebis revienne à Christ, parce que Christ, par le Saint-Esprit, veut te visiter, à être baptisé du Saint-Esprit pour quelqu'un qui l'attend depuis longtemps. Attends-toi et dis, Seigneur, visite-moi, remplis-moi et demeure en moi, pour la gloire de ton nom. Amen.